Paroles d'écriture, émission animée par Michel Bernard.
Si le bonheur, comme l'a dit Stendhal, est une question de talent, Jean Giono est un homme heureux. Voici Manosque, une petite ville de Provence que des livres comme Roguin, Colline, Le hussard sur le toit ont rendu mondialement célèbre. Et voici Jean Giono, à sa table, tout prêt à nous faire des confidences.
Jean Giono, vous êtes aujourd'hui un écrivain universel parce que vous n'avez jamais cessé d'être l'écrivain d'un pays, d'un lieu, de la terre très particulière sur laquelle vous êtes né, l'écrivain de la Haute-Provence et de Manosque. Vous vivez depuis toujours à Manosque. Vous y êtes né. Qui était votre mère?
Ma mère était une femme exquise. C'est mon vieil amour. Elle m'avait eu tard, elle s'était mariée tard, et elle m'adorait.
Chers auditeurs, bonjour. Cette voix, c'est celle de Jean Giono, et elle ouvre cette émission sur les traces de Jean Giono. Nous réécouterons tout à l'heure cette voix qui nous parlera du bonheur dans la deuxième partie. Pour réaliser cette émission, nous avons considéré qu'il fallait se rendre sur place, à Manosque, là où est né et où est mort Jean Giono. Nous sommes donc partis par des routes secondaires et quasiment, nous avons effectué un voyage quasi initiatique. Entouré de centaines de moutons, parfois, car c'est la période de la transhumance, des champs de coquelicots d'une rare beauté, et arrivé à Manosque plusieurs fois, demandé très exactement où était cette maison de Jean Giono, avec des indications erronées, jusqu'au moment où nous rencontrons un homme à qui nous demandons où se trouve cette maison, et qui avec un grand sourire nous regarde en disant « Je vous accompagne ». Et cet homme, c'était l'électricien de Jean Giono, et dans le kilomètre que nous avions à faire, il nous a raconté des anecdotes merveilleuses. Nous allons dans un premier temps écouter une musique, Monteverdi. Vous me direz pourquoi? Eh bien tout simplement parce que cette musique de Monteverdi, le madrigal intitulé Zefiro Torna, a été l'hymne de Contadour. Et Contadour est un lieu, au-delà Manosque, où de 1935 à 1939, Jean Giono y a réuni des jeunes et d'autres personnes dans une perspective politique sur laquelle nous ne nous étendrons pas aujourd'hui, mais qui est l'une des caractéristiques de Jean Giono, et il y aurait toute une émission à faire sur ce thème. Nous allons écouter cette musique d'abord. Dans la maison où a vécu Jean Giono, le paraïs, dans la montée des vraies richesses, quel nom n'est-ce pas, et dans une impasse, on trouve le paraïs. Et là, nous sommes accueillis par Jacques Ménil, qui est le président de l'association des amis de Jean Giono, et qui fait un travail tout à fait extraordinaire pour bientôt mettre cette maison où Jean Giono a vécu, où il a eu plusieurs bureaux que nous avons visités, où il a une bibliothèque de 8000 ouvrages. Eh bien, Jacques Ménil nous a reçus pendant une heure. Nous ne pouvons, dans cette émission, bien entendu, écouter la totalité de l'entretien. Je vous dirai comment pouvoir l'écouter au terme de l'émission. Écoutons seulement la fin de l'entretien entre Jacques Ménil et moi dans l'un des jardins de la maison de Jean Giono à Manosque. Jean Giono, l'un des plus grands écrivains du XXe siècle, quel apport pour le XXIe siècle? Est-ce que c'est un message qui a encore du sens pour ce XXIe siècle, qui est quand même très différent du XXe?
Il faut voir aussi ce qu'il peut apporter aux écrivains d'aujourd'hui. Or, il y a énormément d'écrivains, de jeunes écrivains contemporains, qui sont des admirateurs de Giono. Je ne sais pas Giono est un écrivain qui ne peut pas vraiment influencer parce qu'il est tellement singulier que on ne peut pas écrire comme lui. Parce que ça fait tout de suite pastiche. Ça, c'est le propre quand même des grands écrivains. Je veux dire, vous ne pouvez pas écrire comme Proust. Bon, mais vous pouvez recevoir l'influence de Proust. Et Giono en a fait la mère expérience quand, lecteur de Faulkner, il a voulu approfondir ce qu'il avait découvert chez Faulkner et qui s'est trouvé piégé parce qu'il a bien vu que s'il écrivait comme ça, bah, il ferait du pastiche de Faulkner et que ça pouvait pas marcher. Et donc, avec Stendhal, ça s'est passé différemment. Il a tellement assimilé Stendhal qu'il a réussi à être stendhalien sans pasticher Stendhal, ce qui est quand même très fort. Même si certains ont pensé qu'à un certain moment, ça ressemblait beaucoup. Mais il a réussi à trouver une distance, à introduire dans ce qu'il avait pris chez Stendhal une dimension personnelle. Bon. Donc, il parle à beaucoup de jeunes écrivains. Je pense à mon ami Éric Vuillard, qui était là l'année dernière, qui est un écrivain qui a une grande admiration pour Giono. Il y a Sylvie Germain, qui est influencée par Giono, Alice Fernet, et combien d'autres. Et il y a quand même... Ce qui est assez étrange... C'est que on a souvent des enquêtes auprès des écrivains, dans les journaux, dans les magazines littéraires, Figaro littéraire, etc. Bon, vos écrivains préférés. Alors c'est vrai que Proust bat tout le monde et que Giono apparaît malheureusement assez rarement, bien que les mêmes écrivains, quand vous leur posez la question dans le privé, disent ah oui, ben Giono évidemment, c'est. Mais ils l'ont lu quand ils étaient jeunes et ils ne l'ont plus relu depuis. Et ça, c'est les gens, les visiteurs qui arrivent ici, nous disent ah oui, mais on l'a lu quand on était jeune, etc. Mais je dis non, c'est pas quand on est jeune qu'il faut le lire. Relisez-le maintenant. Revoyez. C'est un écrivain qu'il faut sans arrêt lire et relire. Et il faudrait tout lire. Tout lire, parce que Giono, c'est 25 romans, c'est des nouvelles, c'est du théâtre, c'est des scénarios de cinéma, c'est une énorme correspondance, c'est des préfaces pour énormément de textes, c'est des articles journalistiques, c'est des récits de voyage, voyage en Italie, c'est un livre d'histoire, un récit historique fabuleux qui s'appelle Le désastre de Pavie, que Georges Duby considérait comme un des très grands livres, justement, de la collection « Les 30 journées qu'ont fait la France ». Et d'ailleurs, il y en a une dédicace magnifique de l'œuvre noire par Marguerite Yourcenar qui écrit à Jean Giono qui a assisté à la bataille de Pavie. Il a réussi à faire revivre et à revivre lui-même cette bataille. Donc, encore l'aspect historique, historien de Giono, écrivain de l'histoire en tout cas, romancier de l'histoire, écrivain de l'histoire. C'est un écrivain qui est un énorme massif dans la littérature du XXe siècle, qui ne fait pas peur comme Proust, qu'on aborde donc peut-être avec un peu moins de distance ou de componction comme ça, mais je pense que qu'on ne peut pas imiter en effet, mais qui a nourri beaucoup d'autres écrivains actuellement, et surtout c'est une œuvre qui ne vieillit pas. Il ne se démode pas. Pourquoi ? Parce que c'est une œuvre qui travaille sur les mythes. Et y compris dans sa partie la plus récente, la dernière partie de l'œuvre de Giono, qui travaille sur la violence, par exemple. Cette violence qui explose toujours de plus en plus fort dans notre société, je veux dire, elle est dans l'œuvre de Giono. Et la violence de l'œuvre de Giono nous parle de la violence d'aujourd'hui. Quand il écrit un texte aussi violent que Recherche de la pureté, qui bien sûr parle de la guerre de 14, il nous parle de tous les conflits actuels, je veux dire, il nous parle des conflits actuels. Donc il y a une universalité, il y a une intemporalité, c'est quelqu'un qui n'a jamais cédé aux modes, qui est toujours resté fidèle à lui-même, et ça c'est une grande leçon hein, pour beaucoup d'écrivains aussi. Et je pense que sa modernité, et sa volonté d'ailleurs de trouver même des formes modernes Bon, qui en effet, Faulkner l'a guidé vers un certain nombre de choses, mais essayer à chaque fois de faire des expériences de récits différentes, c'est aussi pour écrire le livre qu'il ne savait pas écrire, c'est aussi une grande leçon pour les écrivains d'aujourd'hui. Donc je pense qu'il a vraiment encore beaucoup à parler, et surtout il nous parle de façon très très directe encore aujourd'hui, tout simplement parce que ça ne vieillit pas. Et ça, c'est assez frappant, hein. Je veux dire, c'est assez frappant. Ça ne vieillit pas ni par le contexte, parce qu'il y a une nature quand même, bon, une nature éternelle, c'est vrai. Il n'a pas situé ses romans dans des milieux... c'est des milieux qui sont mythiques. Donc, c'est pas la petite bourgeoisie provinciale etc. Bon, qu'on trouve dans les romans bourgeois du 19e, hein, je veux dire, bon, et qui sont très datés à cause de ça. C'est une œuvre qui est traversée par la problématique du mal. Et ça, c'est un sujet extrêmement moderne. Donc, je veux dire, il y a une vraie. Je veux dire, modernité, on dirait même. Ça dépasse la question de la modernité. C'est vraiment très, très, très caractéristique de Giono. Et ce qui fait que l'œuvre est très, très vivante. Et je pense qu'elle vivra encore longtemps. Lui, il avait écrit dans un carnet de travail, mais ça avait été rayé par lui, par quelqu'un d'autre après. Assistant à une conférence de son ami Fluchère, fondateur de notre association, sur Shakespeare à Nice, Giono fait l'éloge de la conférence dans son journal, et puis il ajoute en dessous, rayé, le plus grand dans son temps. Pendant longtemps, on a pu se demander ce que ça voulait dire, mais ça veut dire je serai le plus grand dans son temps. Et il avait le sens, en effet, de la destinée de son œuvre, et on ne sait pas ce qui peut arriver, mais il est fort probable, fort possible que pour le XXe siècle, dans un siècle ou deux plus tard, l'œuvre de Giono soit un peu considérée comme celle de Balzac ou de Stendhal pour le XIXe, par nous aujourd'hui. Hein. C'est dans le domaine du possible. En tout cas, elle n'est pas tombée aux oubliettes. On s'emploie à la laisser, à la mettre en valeur, à la mettre en avant. Mais elle se défend très très bien toute seule aussi. Voilà.
C'est un homme qui a rencontré la souffrance aussi.
La souffrance physique, vous voulez dire ? Oui. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert physiquement, qui l'a beaucoup masqué aussi, mais qui n'a pas pu toujours le masquer. C'est quelqu'un qui a souffert assez vite de rhumatisme, de la goutte, de problèmes rénaux, de problèmes cardiaques, et qui, dans le fait, là, deux dernières décennies, années 50, années 60 de sa vie, a rencontré énormément de problèmes physiques qui l'empêchaient parfois de marcher, parfois d'écrire, car c'était la main qui était prise, bloquée, ou les jambes bloquées, ou parfois les reins bloqués. Et c'est vrai que cette expérience du corps, auquel on s'intéresse maintenant chez les écrivains, pendant longtemps on ne s'est pas intéressé au corps des écrivains, mais
c'est important.
Mais c'est très très important, ça conditionne énormément de choses, hein, je veux dire, c'est évident. Cette expérience douloureuse du corps a certainement à la fois eu une influence sur son écriture et peut-être empêché l'émergence, c'est une des raisons, l'émergence d'une nouvelle direction dans laquelle Giono avait voulu partir dans son œuvre, au milieu des années 50, à partir de 1955, pour explorer encore une nouvelle manière d'écrire et de montrer le monde. Il voulait vraiment faire une œuvre extrêmement moderne, en effet, certainement influencé par la littérature américaine, Faulkner et Dos Passos, par exemple, et pour parler du monde contemporain, ouais, et de ses contemporains. Je dirais, en étant branché sur l'actualité. Alors là, en effet, peut-être parce qu'il n'y avait plus cette dimension mythique dans laquelle il avait toujours travaillé et qui lui convenait si bien, peut-être parce qu'il y avait la souffrance, peut-être parce que l'influence américaine, il n'avait pas eu le temps peut-être de l'intégrer finalement, de la mettre à distance, comme il avait fait pour Stendhal, pour qu'il y ait un vrai dialogue et non plus simplement une influence avec la littérature américaine. Et peut-être aussi parce que on ne parle bien, on a vraiment envie de parler que de ce qui vous fascine, qu'on aime. Il avait très très bien parlé en effet de la nature et de la terre dans les années 30. Après, il s'est tourné vers autre chose, vers finalement le mal. Ce mal qui était, comme disait-il, comme un acide qui attaquait tout autour de lui. Et ce mal qui a occupé son œuvre de façon extrêmement violente à partir de 1938, mais surtout après la guerre. Et là, ce monde contemporain qu'il n'aimait pas, qui ne lui convenait pas, c'était certainement très difficile de créer une œuvre pour exprimer cela. Et puis bon, il y a l'âge qui vient, il y a donc les possibilités de l'écrivain qui diminuent sûrement aussi, hein, un épuisement un peu du romanesque qui se produit. Mais en tout cas, on a les traces très très précises et très datées, et avec des morceaux écrits et qui n'ont jamais été terminés, dont certains ont été partiellement publiés. De toute une série de projets qui devaient aller dans cette voie, nouvelle voie romanesque qu'il voulait explorer, de faire un tableau de la société contemporaine avec des moyens d'expression, d'écriture encore plus modernes que ceux qu'il avait utilisés dans les chroniques romanesques comme Un roi sans divertissement, Noé ou Les âmes fortes. Et donc, cette voie n'a jamais abouti.
Au terme de cet entretien à Manosque, dans la maison de Jean Giono, M. Ménil, soit en mettant en valeur une citation de Jean Giono, soit en une citation de vous-même, ou les deux, que diriez-vous pour conclure ?
Moi, je pense que ce qu'il faut bien... Il faut revenir toujours à cette citation. Il l'a exprimée plusieurs fois de Giono. Le monde qui m'intéresse... Ce n'est pas le monde tel que je le vois avec mes yeux d'homme de tous les jours, tel que le voit mon voisin. C'est le monde qui intéresse Giono, c'est le monde tel qu'il est réfracté par le regard de l'artiste, mais qui a trouvé le moyen de nous communiquer cette vision. Et il prend toujours l'exemple de Van Gogh, il dit « Le champ de blé ne m'intéresse pas ». Ce qui m'intéresse, c'est le champ de blé plus Van Gogh. Le champ de blé sur lequel Van Gogh a porté sa marque et qui est devenu le champ de blé de Van Gogh. Je dirais que c'est ça, c'est admirer la façon dont cet autodidacte, avec un père magnifique, qu'il a certainement encore magnifié, lui, mais avec une mère qui était presque illettrée, est devenu... le plus grand prosateur ou un des plus grands prosateurs de la langue française au XXe siècle, même de la littérature française. Là, c'est ce que j'ai appelé dans le titre d'un de mes films, Le Mystère Giono. En effet, il y a cet homme très très mystérieux, très très énigmatique, dont on ne percera certainement jamais le vrai secret de la création. Et d'ailleurs, je pourrais citer ce que dit tout simplement son épouse, dont j'ai retrouvé dans une armoire ici et que j'ai publié les souvenirs. Et à la fin de ses souvenirs, elle a vécu 50 ans avec Jean Giono, ça, très peu de temps même. J'ajoute, au regret de sa mort, j'ajoute celui de ne pas l'avoir compris, d'être passé à côté de lui, sans avoir pu percer ce mystère dont il s'est entouré toute sa vie. Il avait son monde à lui, ses pensées propres, souvent dans la lune. Parfois, il ignorait tout ce qui l'entourait et ne retombait sur terre que pour ouvrir tout grand ses yeux bleus si pâles. Était-ce là le grain de folie qui habite tout être d'élite ? Ce comportement inhabituel et parfois ahurissant d'un être qu'on aime et qui vous échappe.
Terminons par cette phrase absolument magnifique. Merci beaucoup, Monsieur Ménil.
Merci.
Merci à Jean Ménil de nous avoir reçus dans la maison de Jean Giono. Jacques a fait un merveilleux film en 1995 qui s'appelle Le Mystère Giono. Et sur ce thème du mystère, nous allons revenir dans la deuxième partie. Ne quittez pas l'antenne. Poursuivons notre petit voyage sur les traces de Jean Giono. Je vous propose d'abord d'écouter à nouveau Jean Giono. C'est une voix que l'on doit entendre, que l'on doit s'imprégner. Écoutez-le, parlez du bonheur.
Mais le bonheur, je crois, après pas mal d'expérience, s'atteint et se procure par des choses qui sont gratuites et de petites choses minuscules auxquelles d'ordinaire on ne fait pas attention et qui, si on y fait attention, compose le bonheur précisément.
Quel genre de choses ?
Je ne saurais pas en dresser le catalogue, mais elles sont minuscules et nombreuses dans une journée. Par exemple, goûter le plaisir de voir passer une averse, le bruit d'un vent particulier dans les arbres, une fleur qu'on aura respirée, un oiseau qui aura tapé à la fenêtre et vous aura chanté, une visite de quelqu'un qui vous aura intéressé par sa conversation. Tout dans la journée, une plume qui marche bien, un travail qui fonctionne très bien huilé, une feuille de papier qui glisse bien, tout ça fait partie du bonheur.
Le plaisir de soi-même qui fonctionne comme on le souhaite.
Oui, aussi, ça, bien sûr, bien sûr. Son fonctionnement, il n'y a qu'une chose qui est très grave, très embêtante et qui me paraît absurde, que je ne comprends pas. La mort, je la trouve tout à fait naturelle et normale, comme la naissance. Mais une chose que je ne comprends pas, c'est la souffrance physique, pas morale. Morale, je la comprends, et généralement, les souffrances morales les plus terribles, on arrive à les dominer. En tout cas, le temps qui passe les diminue, les rappe et les diminue d'une façon normale. Mais la souffrance physique est une souffrance alors très, très insupportable. Je ne comprends pas ça, c'est vraiment un scandale et une chose abominable, la souffrance. Et on ne sait pas à quoi ça sert au début. Ça sert en effet de...
Oui, Jean Giono a beaucoup souffert dans sa vie et dans les derniers temps, il lui arrivait de ne pouvoir écrire. Je vous propose, chers auditeurs, un texte totalement inédit de Jean Giono qui date de 1921 où il parle de la souffrance. Alors il s'adresse à la souffrance et lui dit... Le bruit cesse, ce n'est déjà plus qu'un flûtis de source. Ô souffrance, quelle est donc l'expérience terrible que tu poursuis dans ma chair ? Et la douleur lui répond, je t'apprends le mérite du silence, je t'apprends la suavité de la solitude, je t'apprends la douceur de l'amitié. Je me fais voir à toi toute nue pour que tu puisses connaître en ton âme la beauté de la douleur. Et la douleur termine, que serais-tu sans moi ? Je suis plus que ta mère, celle qui te portait en elle-même. Et d'ailleurs, n'est-ce pas sur mes grandes ailes pourpres que tu entras dans la vie ? N'es-tu pas né en hurlant, modelé par mes ongles qui ruisselaient de sang ? Voilà ce bref texte de Jean Giono sur la souffrance. Quelqu'un qui chante le bonheur, quelqu'un qui chante la souffrance, quelqu'un qui est extrêmement varié, extrêmement complexe et qui a touché à énormément de choses. Lire Giono, c'est inévitablement quelque part se découvrir ou se redécouvrir. Alors je vous propose, sur les traces de Giono, d'écouter maintenant Jacques Meurat. Jacques Meurat a écrit un très beau petit texte, Jean Giono et le pacifisme, qui est une des dimensions de Jean Giono, aux éditions Parole. Et il a tenté de faire le point sur le comportement, la pensée de Jean Giono de 1934 à 1940. Écoutons-le, l'entretien se déroule sur la place de l'Hôtel de Ville, le son, hélas, n'est pas parfait, mais nous avons voulu, toujours dans cette émission, contextualiser le plus possible ce que nous disons de Jean Giono, y compris le recueil des données sur place. Jacques Meurant, bonjour.
Bonjour.
Nous nous retrouvons sur la place de l'Hôtel de Ville, à Manosque, pour parler de votre livre « Jean Giono et le pacifisme ». Vous étudiez surtout la période 34-40, où vous appelez ça la tentation politique. Vous êtes à l'évidence un des plus grands experts de Jean Giono en ce qui concerne le pacifisme. Je dirais il y a d'autres domaines, mais on va parler de celui-ci. En quelques mots, qu'est-ce qui vous a conduit à vous intéresser à Jean Giono et au pacifisme ?
Alors, ce qui m'a conduit très précisément, c'est une constatation que dans la période qui précède 1934, Jean Giono écrit de très nombreux textes romanesques. Et puis, à partir de « Que ma joie demeure », qui est une charnière, puisque c'est à la fois un roman dans le sens plein, mais c'est un texte à thème, c'est un texte à caractère politique. Et puis là, c'est le silence romanesque, à part Bataille dans la montagne, jusqu'en 1940, mais ça se poursuivra encore jusqu'en 1945-46. C'est cette considération qui m'a conduit à m'interroger que s'est-il passé dans cette période 34-39. Voilà la réponse à votre question.
Dans l'esquisse que vous faites de Jean Giono, il y a à la fois quasiment un surego, enfin quelque chose d'assez impressionnant quand même, hein, dans ce domaine. Il y a le doute.
Oui.
Et il y a quelque part l'inachèvement, c'est-à-dire l'inachèvement amoureux, l'inachèvement dans plein de domaines, y compris enfin dans ses positions parfois à l'égard, j'allais dire, de la collaboration, à l'égard des Juifs, à l'égard des résistants. On retrouve des matériaux qui peuvent permettre de conforter telle posture ou telle autre.
Oui, c'est ce qui est le plus caractéristique, c'est ce qu'il vit pendant la période 1939-1944. C'est étonnant de voir qu'il est à la fois un homme, on va prendre cet exemple-là, un homme qui va aider une quantité importante de Juifs. On parle toujours du pianiste Meyerowitz, hein, qui fait ensuite une carrière extraordinaire à New York. Par exemple, on parle beaucoup moins d'un juif polonais trotskiste poursuivi par les nazis et qu'il va présenter comme son fermier de la Margotte ou de je ne sais plus si c'est celle-là ou l'autre. Et il prend des positions. Par exemple, il a chez lui, vous le savez, Louise Strauss, la femme de Max Ernst, qui est, il le dit, et ça doit être vrai, hein, c'est une enquiquineuse. Et la première fois qu'il la sauve, il va au camp d'Aimé, et il expose, pour la libération de cette femme, il expose clairement que si on ne lui obéit pas, il en référera à la Gestapo. Il ne le dit pas comme ça, mais... Donc, vous voyez, il ose s'avancer. Et puis, dans d'autres cas, il ne réagit pas lorsque des revues, celle de Drieux-La Rochelle ou celle de Chateaubriand, l'encense, il ne répond pas, il ne dit rien, il ne réagit pas. Tout au contraire, bon, c'est 1942 chez Gallimard, il publie un texte qui est inacceptable pour l'époque. J'ai oublié le titre, mais ça me reviendra. C'est Triomphe de la vie, pardon. Pardonnez-moi, mais il ne peut pas ignorer que développant ses thèses de 1929, qui en 1929 sont tout à fait excusables. On peut prôner le retour à la Terre en 1929 sans avoir la moindre idée nazie ou je ne sais quoi. Mais par contre, en 1940, 41, 42, on ne peut pas ignorer qu'on va plaire au régime politique en place. Et aux nazis qui, à l'époque, imaginent la France agricole exclusivement. Moi, je n'arrive pas. Alors, c'est vrai qu'après, il y a cette partie qui plaît tellement, qui est la réécriture, je crois, de Regain, hein, il me semble. Bon, d'accord. Mais quand même, il y a des phrases. Depuis le titre, qui semble-t-il aurait été erroné, hein, il voulait écrire Triomphe de la mort, mais il a écrit Triomphe de la vie. Et ces développements, non, c'est inacceptable. De la part de cet écrivain. Bien sûr qu'il ne glorifie pas le régime, il ne parle pas du nazisme, il ne glorifie pas, c'est pas Hamsun, justement, mais il sait qu'il plaira.
Sur les Juifs dont vous parliez, il a eu à la fois des positions courageuses pour en sauver, il a eu des mots assez impressionnants contre les Juifs.
Oui, oui.
Les deux à la fois.
Oui, oui, oui. Alors, que faut-il croire ? Est-ce que c'est son journal, lorsqu'il dit qu'il n'y a pas que les Juifs qui souffrent, etc. Est-ce que c'est son action en faveur de très nombreuses personnes? J'en ai cité deux ou trois maintenant, il y en a beaucoup d'autres. Il y a l'écrivain Malaquais, hein, qui était ce juif allemand, je crois, Malaki, qui a révélé que Giono l'avait aidé. Et puis il y en a d'autres encore, les sœurs Fradis qui avaient fréquenté le Contadour, et puis une amie intime de Blanche Meyer aussi, Madame Robin, c'est peut-être un nom d'emprunt. Donc il y a cela, et puis d'un autre côté, il y a. Alors est-ce qu'il se livre, est-ce qu'il dit la vérité dans son journal? Oui, peut-être, mais un écrivain sait que son journal sera publié. sauf Pierre Magnan, le pauvre, qui n'a pas réussi. Mais Giono, à mon avis, c'est qu'il va être lu, en tout cas. Et d'ailleurs, la Pléiade l'a publié.
Donc vous pensez que ce qu'il écrit dans le journal, quand même, ça a du sens?
Oui, oui. Je crois que, vous savez, il y a, à cette époque-là, je l'ai mal connu, puisque à la fin j'avais 5-6 ans, mais il y a dans cette époque un antisémitisme puissant et profond en France, qu'on retrouve encore aujourd'hui. Pardonnez-moi, j'ai vécu 35 ans en Alsace, dans des petits villages, on était antisémites encore en 2007 quand je suis parti. Donc il est possible que sa réaction contre le juif, le juge juif Rabinovitch, soit une réaction au fond de monsieur tout le monde. Dans son journal, souvent d'ailleurs, Giono m'apparaît comme un peu comme monsieur tout le monde, qui, si vous demandiez à un tiers d'écrire son journal, il n'en ferait peut-être pas plus ou pas moins, je sais pas.
Alors finalement, Jacques, vous qui avez exploré Giono dans le domaine du pacifisme, mais qui avez été beaucoup plus loin, la preuve, vous venez de nous la donner, par rapport à ses maîtresses, par rapport au cursus de son œuvre, etc. Qu'est-ce que vous retenez de Giono? En quelques mots, si vous aviez quelques mots à prononcer, comment vous coloriez l'image de Giono que vous avez en vous?
Alors, et je crois que j'utiliserai deux phrases brèves. Un génie romanesque du XXe, bien que je n'ai pas les qualités pour en juger parfaitement, mais j'ai été subjugué par l'œuvre. Point. Deuxième phrase, sans doute un personnage dans la vie civile assez odieux. Point.
Donc cette espèce de contraste,
oui,
avec
oui,
la part de mystère, oui, qu'il emporte,
oui,
avec lui.
Oui, 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 oui. Ce qui n'enlève rien au fait qu'il a certainement été un très bon père de famille, préoccupé, mais je ne pense pas que Giono, même dans sa relation amicale avec Lucien Jacques, ait été un personnage qui m'aurait attiré. Quand j'avais 15 ans et que j'ai lu mon premier Giono, un de Beaumugne, j'ai eu envie de venir à bicyclette de Digne le voir. Mais j'étais comme Pierre Magnan, je n'avais lu que ça. Donc j'ai renoncé pour éviter le voyeurisme. Mais si je l'avais connu comme j'ai connu Pierre Magnan, par exemple, sans doute me serait-il apparu comme je l'imagine, c'est-à-dire comme quelqu'un de très prétentieux et conscient de son génie. Mais c'est parfois lourd à porter.
Merci Jacques. En tout cas, un très très beau livre, Jean Giono et le pacifisme, 1934-1940, La tentation politique, dans une remarquable maison d'édition, Parole Édition, qui se trouve dans la région d'ailleurs, en l'occurrence. Mon souhait, c'est que d'abord, vous continuiez votre travail sur Jean Giono, car quand vous en parlez, vous en savez tellement plus que tout ce que vous avez écrit, et dans tous les gens que j'ai rencontrés, qui se présentent comme des gens qui ont travaillé sur Giono, vous êtes l'un de ceux qui a été le plus loin, je crois, le plus dans la complexité. Et je peux vous dire que comme chercheur, laissez tomber une discipline, vous êtes dans la complexité, vous êtes dans l'humanité, avancez et aidez-nous à découvrir un peu plus le Giono que l'on ne connaît pas, quelle que soit l'œuvre qu'on ait lue.
Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.
Voilà. Deux extraits d'une émission qui en fait dure 1h45 et que vous pouvez retrouver sur le site www.art-culture-education-.com/. Vous y retrouverez 1h45 d'émission pour développer votre petit voyage, comme je l'ai fait, sur les traces de Jean Giono. Mais je vous invite vous-même à faire la démarche d'aller à Manosque, de vous promener dans les rues, de visiter sa maison. Sa maison se visite tous les vendredis après-midi, le Paraïs, et vous pouvez réserver au 04 92 87 73 03 04 92 87 73 03. Il y a les amis de Jean Giono qui font un travail tout à fait exceptionnel. Alors si vous voulez en faire partie, si vous voulez vous informer, association les amis de Jean Giono, impasse du Paraïs, montée des vraies richesses, 04 100 Manosque,
Et là, vous allez découvrir des données, une revue et des documents tout à fait extraordinaires. Et si vous en avez l'occasion, au mois d'août, Giono au bonheur des sens, à Manosque, du 5 au 10 août 2015, eut certainement une rencontre tout à fait remarquable et exceptionnelle. Voilà, vous retrouverez toutes ces données de façon précise dans l'émission de Chemin-Scopie, avec une note de synthèse très détaillée. Voilà, vous avez compris qu'il est difficile de parler de Giono, un génie, un homme extraordinaire. Et puis en même temps, j'allais dire ce que Jacques Méni a dit, ce que Jean Méni a dit, ou ce que Jacques Meurat vient de nous dire, à vous de vous faire une opinion. Moi, je terminerai de la façon suivante, avant d'écouter un passage de Mozart qui se relie directement à une œuvre de Giono. Je vous ferai cette confidence suivante. Voyager, c'est découvrir et assumer son ignorance. C'est recueillir des pépites de connaissances. C'est mieux assurer le mystère de l'autre, du monde et le sien. Voyager, c'est ouvrir son être à la complexité infinie de la vie. Pour Jean Giono, il y a eu sa vie, son chemin faisant, son, ou plus précisément, ses styles, ses écrits, leur contenu, le cinéma, la poésie et tant d'autres choses. Il y a sa pensée, sa vie intime, probablement insondable source, qu'aucune quantité de thèses n'épuisera, alors qu'il y en a déjà plus de 300. Jean Giono, c'est l'autre qui me révèle plus et mieux à mon propre mystère, et me conduit à lui dire, au terme de cette émission, « Jean, reprenant le thème d'un de tes livres, que ma joie demeure dans mon inévitable inachèvement, que ma joie demeure dans cette vie, dans mon chemin faisant, en quête de naître à moi-même, en quête d'éternité, c'est-à-dire ce qui n'a ni commencement, ni fin. » Écoutons cette musique de Mozart qui vient, je crois, tout à fait compléter et prolonger ce qui a été dit. La reine de la nuit, de la flûte enchantée. Chers auditeurs, nous allons nous quitter. Nous nous retrouvons pour une dernière fois dans cette saison 2014-2015, plus précisément, le vendredi 26 juin. Et cette fois, nous parlerons de Patrick Modiano, prix Nobel de littérature récemment. Bonne soirée, très bonne fin du mois de mai. Et vous-même, allez sur les traces de Jean Giono. Il y a tant à découvrir dans une partie de vous-même. Bonsoir.